Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Lievin Mbwinga. Bonsoir et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Voici les titres de ce journal. État généraux de la justice, quatre syndicats des magistrats dénoncent des dysfonctionnements et craignent pour l'issue des travaux. Le porte-parole du ministre de la Justice lui rassure, les travaux se déroulent normalement, explique Yves Kissombé. Une délégation de l'Assemblée nationale de la RDC à Kampala, à sa tête le député national Lambert Mende Omalanga, sa mission, appuyer la coopération bilatérale entre les exécutifs du Congo et de l'Ouganda. Nous en parlons dans un instant. Des leaders communautaires sensibilisés par la section genre de la MONUSCO. Il s'agit de ceux de Bogoro, Katoni et commandant Nitouri. Ils sont formés sur l'égalité de sexe entre hommes et femmes. Radio Kapi reçoit l'une des oratrices de cet atelier. Noëlla Tabio est notre invitée. Encore une fois, bonjour. État généraux de la justice, on en parle dans ce journal. Après 5 jours de travaux dominés par des exposés de plusieurs panélistes, les syndicats des magistrats font leur évaluation et relèvent plusieurs irrégularités dans l'organisation de ces assises. Ils disent constater avec amertume, par exemple, la théâtralisation dans le déroulement des travaux. Ils le disent dans leur communiqué conjoint publié hier lundi. Jussi, Sinamac, Saint-Crémac et Simco redoutent que les objectifs poursuivis par ce forum ne soient pas atteints. Il signale par ailleurs une pléthore des participants constituant en majorité des membres des partis politiques, notamment Nojek et des étudiants. Des précisions avec notre envoyé spécial sur place, Jeff Ngoy.
Henri Dianda, président du Saint-Crémac, énumère quelques irrégularités.
Le Conseil supérieur de la magistrature et les autres acteurs majeurs de la justice n'ont pas été associés dans l'organisation des présents travaux. La très faible prise en charge des participants, en particulier les magistrats venus des provinces. Le fonctionnement occulte du secrétariat technique dont les membres ne sont pas connus des participants. La sélection orientée des intervenants, le temps des travaux en atelier réduit à un seul jour risque de rendre superficiels les débats.
Ces bruits proviennent des militants des partis politiques et parfois des étudiants, soit pour applaudir certains panélistes favorables à leur opinion, soit pour conspuer les magistrats syndicalistes qui rappellent leurs revendications et dont le temps de parole semble réduit, d'après Edmond Issofa d'Issinamak.
L'impression que nous avons ici, c'est que ce n'est pas des états généraux où nous devons échanger, mais ce sont des attaques dirigées contre les magistrats et ce qui semble ne pas être normal. À cette allure, on ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Ne nous donnons pas l'impression comme si quelque chose étaient déjà boutiqués et nous sommes simplement venus pour accompagner.
Dans les couloirs du centre financier, une dame expatriée s'étonne de ce qu'elle qualifie de désorganisation. Ce n'est pas cela, les états généraux qu'on attendait, nous déclare-t-elle dans l'anonymat.
Place à présent à la réaction du porte-parole du ministre de la Justice et garde des Sceaux sur la déclaration des syndicats des magistrats qui disent avoir constaté la théâtralisation du déroulement des travaux des états généraux de la magistrature. Les travaux des états généraux de la magistrature se déroulent normalement jusqu'ici en attendant les recommandations qui vont aboutir à la thérapie de la justice congolaise, a indiqué maître Yves Kissombé. Selon lui, la déclaration de ces syndicats est intempestive car les réflexions pendant ces assises répondent aux attentes et aux objectifs poursuivis. Il appelle ainsi ces syndicalistes au bon sens. On écoute maître Yves Kissombé au micro de Grâce Hamzati.
Nous tirons tout doucement vers les conclusions de ces assises qui se déroulent convenablement. Tout se passe très bien. Il s'agit des états généraux. Il y a des réflexions, il y aura des recommandations pour l'action parce que la justice est malade et il lui faut une thérapie. Je pense que nous sommes pour l'apaisement, pour la sérénité des débats et des analyses. Je déplore au nom du ministre d'État la dérive corporatiste de ces syndicats de magistrats dont les déclarations intempestives n'ont pas lieu d'être. Les réflexions sont internes. Il y a d'ailleurs une couverture médiatique suffisante de ces assises, comme de toute question d'intérêt national. Et honnêtement, le caractère peu républicain, offensif, offensant de ces déclarations n'apporte rien au débat. Je pense qu'il faut de la sérénité, de la concertation. Nous sommes tous, chacun à sa place, intéressés par la résolution des problèmes de la justice.
Diplomatie parlementaire à présent, une mission de l'Assemblée nationale de la RDC à Kampala. Objectif de cette délégation, appuyer la coopération bilatérale entre les exécutifs du Congo et de l'Ouganda. Cette équipe conduite par le député national Lambert Mende Omalanga a pour mission d'échanger pendant une semaine avec les autorités parlementaires ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux nations. En marge de cette mission, le président de l'Assemblée nationale a donné des orientations et fixé les termes de référence de cette mission. C'était lors d'un échange hier à Kinshasa avec 11 députés nationaux membres de cette délégation. On écoute le chef de la délégation, Lambert Mende, au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entourait pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroulent contre les forces terroristes des ADF Nalu. Et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais.
Notez que cette initiative découle des échanges que le président Vital Kamerhe a eu avec son homologue ougandaise Anita Among à Accra au Ghana en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des assemblées nationales se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de leurs pays respectifs en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre le gouvernement congolais et ougandais. Un jeune homme abattu par balle par des hommes armés inconnus, cela s'est passé dans la soirée d'hier lundi à Goma, précisément à Kasengesi. C'est à l'entrée ouest de la ville de Goma, sur l'axe routier Goma-Sake, dans le territoire de Massissi. Les premières informations fournies par des sources sécuritaires révèlent que la victime, connu sous le prénom de Moussa, était l'ancien gérant d'un hôtel situé à Mubambiro, à Sake. Il a été tué autour de 19h heure locale et les malfrats auraient emporté sa moto. Il quittait Goma pour regagner son domicile à Mubambiro quand l'incident est survenu. Son corps a été levé par les services de sécurité qui l'ont acheminé à la morgue de Goma. Sûrement la fin du calvaire pour les 700 cultivateurs de la chefferie de Walé-Sevonkoutou au sud d'Irumu. Ils ont regagné leur village d'origine en Ituri depuis une année et vaquent librement à leurs activités. Résultat de l'accord de paix et de cohabitation pacifique signé en 2023 entre les communautés locales jadis en conflit grâce à l'appui de la MONUSCO. Ce constat positif a été fait hier lundi au cours de l'atelier d'évaluation de cet accord. Des travaux qui ont réuni les chefs coutumiers et notables des communautés Nandé et Lessé à Komanda. Reportage Ezekiel Mouzalia.
Les communautés Lessé et Nandé au sud du territoire d'Irumu ont résolu d'enterrer les différends qui les opposent, notamment autour de la gestion des terres, surtout dans les groupements Bokuchu et Bandiangu dans la chefferie de Walé-Sevonkoutou. Des divergences qui avaient dégénéré en violence, avec comme conséquence des pertes en vies humaines, l'incendie des maisons et les déplacements des populations. Selon le président de la société civile locale, les deux communautés vivent désormais ensemble en harmonie. Dieudonné Malangaï.
On vient de déatifier 1024 cultivateurs. Nous venons de faire rentrer près 708 cultivateurs dans les régions et aujourd'hui ils sont sur terrain et sont en train de cultiver. Il y avait la division auparavant, mais pour le moment, la cohabitation est renforcée.
L'administrateur du territoire d'Irumu salue cette prise de conscience qui augure d'une paix durable dans la région. Le colonel Siro Simba invite les deux communautés à préserver les acquis de cette paix.
La chefferie de Wales et Vokoto, pour moi, c'est la chefferie martyre. Avant, les Lesénandes, c'était des communautés à couteau tiré. Maintenant, elles sont ensemble. Ça donne notre force.
Plus de 70 villages jadis vidés de leurs habitants sont de nouveau habités grâce au dialogue communautaire et aux opérations conjointes contre les rebelles des ADEF dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
La population de Yakoma au nord Ubangi en danger puisqu'elle court un risque d'insécurité alimentaire cette fois. En cause, la présence accrue d'éleveurs nomades Mbororo qui proviennent du Sud-Soudan. Ils arrivent à Colonne et envahissent les zones arables pour les servir de pâturage à leurs troupeaux. Les témoins affirment que ces étrangers sont armés de fusils et prêts à abattre toute personne qui oserait chasser leur cheptel. Conséquence, les paysans congolais craignent de fréquenter leurs champs ou effectuer leurs activités dans la forêt. Le président du conseil territorial de la jeunesse de Yakoma lance un SOS à l'endroit des autorités. Fiston Gala est au micro de Paul Richard Malengela.
Les éleveurs Mbororo sont toujours là, ils sont partout dans les territoires. S'ils arrivent, ils disent qu'ils ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais ils sont déjà prêts du temps et ils sont en train de progresser. Ils étaient dans le groupement Mbongo, Awapinda, groupement Gembere, groupement Bira, groupement Lao Est. Aujourd'hui, on les trouve déjà aussi dans le groupement Modale. Donc, ils sont en train de chercher des zones de pâturage, ils se promènent. Les cris d'alarme de la population n'ont pas de place. Donc, ils sont encore là, ils sont là. Il y a évasion des éleveurs Mbororo. Donc, la population est en train de lancer des cris d'alarme auprès des autorités pour rechercher à nous trouver une solution. Parce que nos gens ont peur maintenant d'aller dans des forêts cultiver leurs champs. Vous voyez que nous avons peur de la sécurité alimentaire qui pourra nous arriver d'un moment à l'autre.
Une rencontre et pas de moindre se tient depuis hier lundi à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. C'est la COP29, la délégation congolaise qui y prend part, est conduite par la première ministre Judith Suminwa. Présent à cette rencontre, le responsable du groupe de travail Climat RED et membre de la société civile congolaise dit regretter l'absence de certains grands pollueurs à ses assises. Toutefois, Omer Kabasele indique que la RDC, qui se positionne comme pays solution, est déterminée à valoriser ses ressources naturelles pour le bien des communautés locales. On écoute Omer Kabasele, joint depuis Bakou par Jean Gandou.
Les ambitions sont très élevées pour les pays africains qui sont venus ici déterminés à obliger ceux qui détiennent la responsabilité historique des changements climatiques de revoir à la hausse leur contribution. Il faut amener cette contribution annuelle à 130 milliards de dollars pour permettre aux pays en développement qui ne sont pas responsables des changements climatiques mais qui détiennent des solutions d'être en mesure de réaliser avec succès les approches d'adaptation et d'atténuation. La RDC voudrait à tout prix faire valoriser ce que nous avons comme ressources avec nos 155 millions d'hectares de forêt, avec nos tourbières, avec tout ce que nous avons comme réserve en eau douce, avec tout ce qu'on a comme minerais stratégiques. C'est ça la détermination de la délégation de la RDC d'imposer nos exigences, nous faire entendre parce qu'on ne peut pas nous imposer une conservation qui maintient en même temps la pauvreté des communautés locales dont nous voudrons que les solutions que nous avons au changement climatique puissent être facteurs de développement dans notre pays.
Et puis 20 organisations environnementales encouragent les initiatives du gouvernement souminois visant la promotion de la conservation de la nature en RDC. Nous sommes là au Nord Kivu. Elles se sont ainsi exprimées à travers une correspondance adressée hier lundi 11 novembre à la première ministre. Elle parle entre autres de l'adoption par le gouvernement congolais de la clause du statut de Rome qualifiant d'un crime international d'écocide tout acte de destruction de l'environnement. Ces organisations recommandent toutefois à Judith Suminwa de promouvoir l'économie verte dans le pays. Bantou Lukambo, porte-parole de cette coalition d'ONG, le dit ici au micro de Bernard Denyangi.
Nous avons été très ravis d'apprendre que notre gouvernement a été le premier pays du monde à signer le document là qui reconnaît l'écocide. Puisqu'on n'a pas de mesures contraignantes au niveau mondial, c'est pourquoi les entreprises font tout pour détruire l'environnement. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a de tels documents, moi je ne pense pas qu'il y aura une entreprise qui s'aventurera pour détruire les écosystèmes dans le monde. L'autre action, c'est la proposition de la création d'une aire protégée qui sera dénommée Couloir Verte Kivu-Kinshasa, à vocation des réserves communautaires. C'est quelque chose qui montre vraiment la détermination de notre pays à aller en avant. Et tu vois, nous sommes appelés pays solution, mais le gouvernement n'arrive pas à capitaliser ces noms-là. C'est pourquoi nous avons essayé de féliciter la première ministre et nous lui avons aussi proposé de promouvoir l'économie verte.
Actualité internationale.
Pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan, il y a plus d'un an et demi, le groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déplacé à Port-Soudan, une visite de 3 jours qui vise à examiner la situation sur le terrain, explique l'agence de presse officielle SUNA. Les experts devraient rencontrer les instances nationales chargées de l'application de la décision 1591 de 2005 de l'ONU relative à la situation au Darfour.
L'invité.
La section genre de la MONUSCO sensibilise des leaders communautaires, notamment à Bogoro, Katoni et Komanda, sur l'égalité de sexe entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les diverses formes de violence basées sur le genre. L'objectif est de promouvoir la masculinité positive en vue d'améliorer le statut de la femme et sa représentation dans les structures communautaires de l'Ituri. Pour en parler, Radio Kapi reçoit Noëlla Tabio, l'une des oratrices de cet atelier. Elle s'entretient ici avec Jean-Claude Lokidile.
Noëlla Tabio, bonjour.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce qui justifie l'opportunité d'intersensibilisation, surtout avec ces gens qui vivent dans la communauté? Est-ce que vous estimez, parce que c'est là où les problèmes encore très sérieux, avec les poids de la coutume, où ces messages passent difficilement et pour lesquels il faut cibler ces gens qui viennent des milieux ruraux pour que le message atteigne justement, sur, si on peut dire, ceux qui sont encore les conservateurs ou bien les extrémistes?
Cet atelier ne vise pas seulement des leaders communautaires ou bien les leaders de ces milieux ruraux, mais c'est aussi plus important même pour des autres leaders. Surtout, l'important, c'est dans le sens de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Parce qu'avec les plafonds de verre, les murs de verre qui bloquent les leaderships féminins, qui bloquent les femmes, qui les maintiennent dans une situation inférieure aux hommes, cet atelier va leur permettre alors de se dévoiler les visages, de se laisser aller, de prendre aussi des positions et d'essayer aussi de laisser ouvrir leur potentiel. Alors si on a sélectionné les milliers ici qui est reculé, c'est pas seulement à cause des coutumes. Oui, je dirais oui, il y a aussi des coutumes qui peuvent s'irer. Il y a des normes culturelles qui sont encore là et qui conservent encore très bien. C'est aussi pour les enfranchir, pas même les enfranchir, mais leur permettre de jouir de leur liberté, d'essayer de s'épanouir, de laisser voir aussi leur potentiel, de les mettre aussi à la disposition de la communauté et même du pays pour que nous puissions atteindre un bon développement. Et même pour les autres femmes qui ne sont pas de ces milliers, c'est un message vraiment très important pour nous laisser tous, toutes les femmes qui nous sommes, nous ouvrir, nous donner aussi à l'opportunité, accéder aussi à des positions, des décisions, à des ressources qui sont disponibles pour nous et de s'épanouir pleinement.
Comment justifier dans la salle la présence des hommes? Parce qu'on sait que quand on parle de violences sexuelles basées sur les genres, quand on parle de stéréotypes sexistes, quand on parle du genre, généralement on pense que ça concerne les femmes. Est-ce que vous pensez que s'il y a frein, s'il y a handicap, s'il y a blocage, c'est notamment aussi les hommes qui freinent ça?
Pour la présence des hommes, c'est juste aussi pour les sensibiliser et permettre aux femmes d'accéder, leur montrer que les femmes aussi peuvent faire, les femmes aussi sont importantes, les femmes aussi ont des mots à dire, elles ont des expériences, elles ont des connaissances. Que les hommes ne prennent pas les leaderships ou bien les histoires des genres comme c'est pour les femmes et les leaderships c'est pour les hommes. Non, on a tous des potentiels. Vu que Dieu nous a créés égaux, on a tous des potentiels qu'on doit mettre à la disposition de la société pour que nous puissions vivre vraiment un épanouissement et le développement. Alors, la présence des hommes est justifiée par le fait que les hommes aussi doivent encourager les femmes, doivent comprendre que les femmes vont aussi à quelque chose et peuvent faire aussi quelque chose et leur laisser aussi accès. Pas seulement réservé aux hommes, mais aussi prendre aussi les opinions des femmes, prendre aussi les connaissances des femmes en considération comme étant qu'entre guillemets libre des droits.
Là, l'un des participants a souhaité que ces jeunes de sensibilisation soient aussi menés dans des fins fonds, là où c'est encore très prononcé. Il y a encore un besoin. C'est vrai, vous avez fait à Bogoro, c'est presque un centre de négoce, mais aller vers les fins fonds, là où il y a les conservateurs, comme je l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, parce qu'ils disent que là, il y a encore le besoin où effectivement la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit au siège, la femme, elle, c'est la cuisine, c'est les chances. Comment vous réagissez par rapport à cette réflexion d'un des participants qui est dans la salle, hein?
C'est pourquoi on a ciblé les leaders communautaires, parce qu'on sait qu'un leader est celui qui a toute une communauté à sa possession. Peut-être peut arriver que c'est un leader de ces milliers-là dans les fins fonds, alors à les former ici, c'est pour qu'ils partent aussi former les gens qui se retrouvent dans les fins fonds. À les sensibiliser, et c'est pour qu'ils partent aussi sensibiliser les autres qui ne sont pas, qui n'ont pas eu la chance de participer, qui ne sont pas avec nous ici, afin qu'ils apprennent, qu'ils retiennent quelque chose. C'est pourquoi on a ciblé les leaders, parce qu'ils ont des communautés, des groupes qui sont à leur disposition, qui doivent aussi sensibiliser et ainsi de suite, que ça va continuer. Et aussi, pour ce qui concerne la sensibilisation de ceux qui conservent encore les normes quotidiennes, qui conservent encore la culture. Alors, c'est pour cela, les leaders doivent aussi comprendre que les changements ne peuvent pas venir du coup, mais c'est un processus qui va venir au fur et à mesure, avec des sensibilisations pareilles qui est aujourd'hui avec les leaders, que les leaders aussi doivent aussi sensibiliser à leur tour. Et je pense que ça fera une chaîne qui va se suivre. Et petit à petit, nous allons arriver à un changement.
Nella Tabio, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à Martin Sebujangwe, à Pelé Kipela Mondo, à Junior Kamunga et à Pierre Diassinois.